L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 11h50, ce 23 mai 1779, au cœur d'un printemps radieux. Une journée des plus ensoleillées bat son plein dans les rues de la capitale française, encore placée sous l'autorité de Louis XVI, qui vit confortablement à Versailles. Dans quelques instants, Paris, forte de plusieurs millions d'habitants, comptera une nouvelle venue. Catherine Hübscher, 26 ans, forte comme un ballon, rustre comme une pioche, en foule le sol pour la toute première fois. Elle l'ignore encore, mais son destin, tout bonnement extraordinaire, est déjà en train de s'écrire. Rien ne laisse présager une telle évolution, fulgurante, inimaginable. Comme une comète dans la nuit, la paysanne alsacienne, qui ne sait parler que son patois provincial, va entrer par la grande porte dans la légende de toute une époque, celle du Premier Empire. Elle est celle qu'un certain Napoléon Ier baptisera Madame sans gêne. 11h50, l'heure H de mon histoire. Catherine est une jeune femme des plus communes à l'époque de l'Ancien Régime. La France est alors une puissance en difficulté financière. La pauvreté est aussi éclatante que la grande richesse peut être indécente. Notre protagoniste vient d'un petit village le long du Rhin. Cette région n'est française que depuis un siècle. Catherine ne sait pas bien parler cette langue assez éloignée de son dialecte aux accents germaniques. C'est donc une jeune femme particulièrement malhabile, ignorante des normes de son propre pays, qui découvre, ébahie, la grandeur de la capitale. Sa vue n'est pas excellente. Elle distingue mal les détails de ce qui se déroule devant elle, et ils sont nombreux. Après avoir déambulé le long des quais de la Seine, Catherine arrive près de l'île de la Cité, devant ses yeux la cathédrale Notre-Dame de Paris. Effrayée par tant de grandeur et subjuguée par toute cette beauté, elle n'ose même pas entrer dans l'édifice. Les gargouilles, la flèche, tout l'impressionne. Elle est stupéfaite, oh, pas seulement par la splendeur, mais aussi par la misère. La crasse côtoie les dorures. La fange est au pied des bas de soie des bourgeois et des aristocrates. Les deux mondes cohabitent dans un brouhaha indicible. Les pauvres sont vêtus de guenilles et quémandent quelques pièces. Ce phénomène n'est pas marginal. La jeune Catherine est particulièrement surprise de tant de disparités. En entrant dans les rues des faubourgs, le bruit la terrorise. Les voies sont étroites et un manque d'hygiène absolument hallucinant complète un tableau qui lui semble presque irréel. La voilà déjà bien loin de son petit village. Orpheline, depuis 10 ans de son père et d'à peine quelques mois de sa mère, sa présence en Alsace dérangée. Catherine battait le linge pour un maître de forge et dépendait d'un tuteur. Impossible, avec les moyens de la famille, de lui constituer une dot. Elle ne s'est donc pas fiancée. À son grand malheur, d'ailleurs. Tant et si bien qu'elle est persuadée d'être oubliée de Cupidon. Elle rêve d'un homme charmant qui lui permettrait d'avancer un peu en société. Pourquoi ne pas devenir cuisinière dans une maison de bonne famille, par exemple? Mais déjà, cela semble hors de sa portée. La pauvreté, voilà le destin qui lui tend les bras. Tout ce qu'elle veut, c'est éviter le trottoir et la rapine. Sur sa gauche, l'attirant de sa rêverie, une femme avec un bras en moins, qui fait la manche, lui attrape le jupon, réclamant une pièce. Saisie, Catherine fait un écart sur la route et manque de se faire percuter par un cavalier qui passe par là. Il a un uniforme de l'armée et houspille la jeune femme. Elle frôle de près un accident qui aurait pu lui être fatal. Elle continue d'avancer vers la destination inscrite sur le bout de papier chiffonné qu'elle tient dans sa main. Elle le serre fort, comme la promesse d'un avenir dans l'une des plus grandes villes du monde. À la mort de ses parents, son tuteur ne l'a rapidement plus supportée. Catherine parle trop et beaucoup trop fort. elle n'a aucune manière. Jure, crache au sol et rit fort, sans retenue. Comme il connaît une famille de bourgeois via l'un de ses frères, son tuteur décide de la placer là, au cœur de Paris. Elle y sera blanchisseuse. Exit la vilaine Catherine. Son départ pour Paris est organisé. La jeune femme finit par arriver devant le bel hôtel particulier de la famille qui l'embauche. Ses gens semblent la trouver répugnante, mais ils sont gentils avec elle. Rapidement, elle devient la femme à tout faire et ses patrons profitent de sa position délicate. Les journées sont difficiles, les nuits courtes. Elle est malheureuse, se casse le dos en nettoyant les marches du perron, se tord les cervicales en frottant les plafonds. La bourgeoise de la maison reçoit beaucoup. Catherine, qui ose à peine regarder les coiffures et les toilettes du coin de l'œil, se surprend parfois à rêver. Elle aurait pu, si elle était née dans un beau château, devenir quelqu'un et profiter d'un beau parc. Mais comme beaucoup de femmes de son âge, le destin en a décidé autrement. Elle trouvera peut-être un jour un homme à épouser qui ne sera pas saoul du matin au soir et qui lui fera de beaux enfants. Son instinct maternel appelle déjà. Elle espère un jour fonder une belle et grande famille. Mais rien pour le moment ne le laisse présager. Il faut dire qu'elle est assez isolée dans cette capitale grande comme le monde. Au cœur du faubourg Saint-Antoine, un homme venu d'Alsace finit par lui indiquer l'existence d'une petite taverne au cœur d'un quartier malfamé. Ce lieu, parmi tant d'autres dans Paris, ne sort objectivement pas de l'ordinaire. Mais il devient pour elle une véritable caverne au trésor. Cette auberge, bien que ce terme soit déjà trop valorisant pour l'établissement, se nomme la Cigogne alsacienne. Le propriétaire des lieux est un homme né à Colmar. 60 ans. La bedaine en avant, la moustache aussi imposante que son divin bidon. Il a l'habitude de servir de la bière à profusion et surtout d'accueillir ses compatriotes. Catherine revit. Elle se fait des amis, partage avec eux des anecdotes et des souvenirs du Haut-Rhin. Son pays natal lui manque. Les paysages qu'elle a toujours eu l'habitude de parcourir dans sa jeunesse, les mollets dans l'herbe fraîche et le regard perdu dans les collines sont devenus des souvenirs qu'elle chérit tendrement. Elle pleure souvent en y repensant. Les choses deviennent moins difficiles en évoquant ses peines au contact de cette petite bande d'amis. Elle est composée d'expatriés comme elle, pour la plupart appelés par des envies de grandeur. Mais tout comme Catherine, ils n'y ont trouvé que la misère. Tout au plus, un certain Hans est devenu assistant tonnelier. Sa petite paye lui a permis de louer une chambre dans une masure aux vitres presque toutes bouchées par des morceaux de tissu. Autant vous dire qu'il y fait quasiment aussi froid qu'à l'extérieur. Pour autant, au milieu de ses amis, c'est lui le roi. Aucun autre n'a ce privilège. Tous dorment dans des chambrées sous les toitures des maisons bourgeoises qui les emploient. Et ce sort n'est pas des plus enviables. Ils n'ont rien à eux. Aucune propriété. Il ne pense d'ailleurs jamais y avoir accès. Durant l'un de ses rares jours de repos à la fin de l'été, Catherine se décide à rendre visite à ses amis. Elle n'en avait pas l'envie, à vrai dire. Son moral n'est pas bon. Sa vie, pourtant, va changer. Après leur première pinte de bière, la joyeuse petite bande, occupée à lui remonter le moral, est dérangée par le bruit de bottes qui claquent sur le palier de la porte. Un jeune sergent d'infanterie fait son apparition sur le seuil de l'établissement. C'est un Alsacien. Il est beau, grand, élancé, membre de la garde royale. Il s'appelle François-Joseph Lefebvre. Et bientôt, son nom à lui aussi entrera dans l'histoire. En un regard, Catherine et lui tombent amoureux. En un éclair, leur destin se lie de manière totale, absolue. Au cœur de la capitale des Lumières, une histoire d'amour somme toute banale s'apprête à entrer dans la légende de la période historique à venir. Nous sommes en juin 1782, toujours au cœur de la capitale française. Plus précisément, sur le champ de Mars, situé tout près de l'école militaire. C'est un magnifique bâtiment d'enseignement d'élite fondé par le roi Louis XV. La chaleur est étouffante, l'atmosphère pesante. Le stress pour Catherine, notre future Madame sans gêne, est à son comble. Elle est au premier rang d'une foule venue regarder avec curiosité le défilé. Attention, elle n'est pas pour n'importe qui cette célébration. Elle est pour le futur tsar de toutes les Russies, le futur Paul Ier. Les troupes militaires ne sont pas encore arrivées, les officiels non plus. Sous sa coiffe en dentelle, Catherine porte à bout de bras son premier fils, né l'année dernière. Elle attend avec beaucoup de fierté son compagnon. Oh, ils ne sont pas encore mariés, non. Ils attendent d'avoir assez de souplesse financière pour se lancer. Mais elle est déjà maman, à son propre foyer. Un mari qui sait lire et écrire. D'ailleurs, François lui donne des cours de français et d'algèbre. En bref, elle est aux anges. Et sous la chaleur de ce mois de juin qui annonce un été magnifique, elle en prend conscience. Elle n'a jamais été aussi radieuse. La tonitruante alsacienne, et chaque passant peut voir qu'elle est comblée. Jamais. Jamais elle n'aurait pu imaginer une telle évolution personnelle. Dans ses rêves les plus fous, le scénario qu'elle vit maintenant n'avait pas sa place. Le Champ de Mars, c'est une incroyable structure entourant une plaine, en plein Paris. Catherine l'ignore, bien entendu, mais un jour, au bout de ce grand terrain, une tour Eiffel viendra rendre Paris plus immortelle qu'elle ne l'est déjà en 1782. Elle parcourt du regard les visages de ceux qui l'entourent. Un vétéran de l'armée en guenilles, quelques bourgeois aux bottes bien propres et des familles, comme elle, qui attendent qu'un être cher défile fièrement sous les couleurs royales. À côté d'elle, un petit garçon tire la main de sa mère et lui montre l'ampleur du fossé qui les sépare du champ de manœuvre. 10 mètres de large, plus de 2 mètres de profondeur, sec et maçonné. Ah, cela a de quoi impressionner les petits bonhommes comme lui. Derrière cette barrière qui sépare l'armée de la populace, le champ de Mars en lui-même. 5 entrées permettent d'y accéder, gardées à chaque fois par 2 guérites en pierre surmontées d'une fleur de lys. C'est le symbole de notre bon roi, explique la maman au petit garçon. Elles sont fermées par une grille en fer forgé à 2 vantaux. La zone du défilé est longue, de plus de 900 mètres, et donne à l'école militaire toute neuve, ou presque, puisqu'elle n'a que 30 ans, un air martial des plus impressionnants. Et puis soudain, les tambours retentissent. Les voitures des officiels arrivent tirées par des chevaux sur la tête desquels on a mis des plumes aux couleurs variées. Catherine, subjuguée, voit descendre de ces véhicules rutilants des femmes et des hommes aux tenues splendides. Admirative, elle n'en croit pas ses yeux. À côté d'elle, certains badauds crachent sur la richesse de ces gens et sur leur misère à eux. Mais elle aime se dire que ce qu'elle a est déjà une superbe victoire sur l'existence. Tout ce beau monde installé, les troupes font leur apparition. Catherine plisse les yeux à l'approche des gardes françaises, le régiment de son mari. Il lui a appris à les distinguer. Étendard avec une croix blanche sur un fond bleu roi et parsemé de fleurs de lys. Ah, faire partie de ce régiment, c'est un véritable honneur pour lui. Rendez-vous compte, dit-elle à sa voisine. Il existe depuis 1691. L'uniforme, lui paraît moins joli. Oh, bien entendu, elle n'a rien dit à François, son mari, qui serait certainement fâché. Bleu avec de larges manches rouges et blanches et un tricorne sur la tête. Ouais. Rien de bien transcendant, pense-t-elle en son fort intérieur. Mais comblée de fierté et de bonheur, elle profite de ce moment hors du temps que la vie lui offre. Et cerise sur le gâteau, elle remarque que son aimé est en tête du régiment, juste derrière le maréchal de Biron. Une sacrée célébrité, celui-là. Cette journée, comme beaucoup d'autres, est pour elle une bénédiction. La vie s'écoule ainsi paisiblement. François ramène à l'époque 3 à 4 francs par jour. La somme est des plus raisonnables. À l'époque, le kilo de pain coûte 30 centimes, à peine 1 franc pour le kilo de viande, 1 franc 50 pour le kilo de beurre. De quoi vivre simplement sans frioriture. Catherine fait des extras de temps en temps pour mettre du beurre dans les épinards. En avril 1783, le couple se lance. Ils vont se marier. Ils sont déjà parents et décide après la cérémonie d'avoir un deuxième enfant. En tout et pour tout, tenez-vous bien, ils en auront 14. Ils s'aiment et sont en quelque sorte le couple modèle pour leurs amis venus d'Alsace qu'ils côtoient toujours dans leur QG, la petite auberge. Leurs valeurs n'ont pas changé, même s'ils sont devenus un peu plus à l'aise que leurs compagnons. Quand ils le peuvent, ils les aident, leur achètent à manger, leur laissent parfois de la monnaie. Ils sont aimés de tous. François semble suivre une trajectoire idéale pour devenir sous-officier sous les couleurs royales. Il a des qualités intellectuelles indispensables pour évoluer dans les rangs militaires à l'époque. Mais vous le savez bien, le destin prend parfois des chemins capricieux. Le 14 juillet 1789, la France bascule dans la Révolution. La monarchie absolue disparaît et fait place à un régime parlementaire où le roi dépend des députés. Rapidement, c'est la République qui est proclamée en 1792 et l'année suivante, le roi puis la reine sont guillotinés. Au cœur de ce marasme et de cette période de troubles, le couple tâche de se faire petit, de prendre le vent dans le bon sens. Et ça marche. La carrière de François explose. Il est à la Bastille le 14 juillet 1789, sauve plusieurs de ses officiers. Pour le remercier de ses actions, il devient officier en tant que lieutenant. C'est une évolution inespérée pour cet enfant pauvre de province. Elle en appellera d'autres. En 1791, prenant le parti royal à qui il a juré fidélité, François est blessé deux fois. D'abord en aidant les tantes du monarque à fuir vers Rome, ensuite lors du retour du carrosse du roi après Varennes, après la fuite avortée de Louis XVI. Il est chargé de la protection des souverains. Cet ultime coup d'éclat lui vaut à l'âge de 37 ans d'être promu capitaine au sein de l'armée de Moselle, non loin de ses terres natales. Mais Catherine, maligne, très à l'aise avec les sans-culottes avec qui elle partage sa grande gueule, passe par ses contacts pour faire accélérer l'avancement de son mari. Non, elle s'inquiète pour lui, bien entendu. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour lui permettre de devenir rapidement un homme important. Ainsi, il s'éloigne des premières lignes. C'est chose faite entre 1793 et 1794, adjudant général, chef de bataillon, général de brigade, puis de division le 10 janvier 1794. Celui qui a épousé la cause républicaine par amour de sa patrie est considéré comme l'un des soldats les plus intrépides de l'armée. Et comme souvent à l'époque, le courage paye. Catherine fuit la terreur en cours à Paris et le rejoint en Belgique, au cœur des combats. Elle accouche toute seule à Liège, pendant qu'à Fleurus, en juin 1794, François se distingue encore. Face aux perspectives de défaite, il s'exclame « Nous retirer quand nous pouvons combattre et mourir avec gloire, non, non, point de retraite !» L'intrépide quadragénaire repousse toujours plus loin les limites de son courage et en 1799, après une blessure au bras obtenue de l'autre côté du Rhin, il est sommé de rentrer à Paris pour sa convalescence. La capitale est en pleine ébullition. Les partis politiques sont aux abois et le directoire qui contrôle le pays cherche de nouveaux directeurs. Ces hommes sont à la tête de la nation. L'aura de François Lefebvre est telle qu'on lui propose une de ses places. Il rentre chez lui, les chevilles enflées comme des ballons. Mais sa femme, elle, a vu le coup venir. Elle lui enjoint de refuser. Il faut leur répondre que non. Que veux-tu aller faire au milieu de tout cela ? Ben reste ici. Il faut qu'ils soient bien malades là-bas puisqu'ils veulent faire un roi d'un imbécile comme toi. Sévère, allez-vous me dire. Méchante même peut-être, oh, vous avez raison, oui. Mais cette remarque ne manque pas de sens pour autant. Et d'ailleurs, ils l'ignorent tous deux encore, mais ce refus, puisqu'en bon mari François écoute les conseils de son épouse, ce refus va les sauver. En effet, se profile déjà à l'horizon l'ombre d'un homme qui prendra bientôt toute la place. Il porte un bicorne sur la tête. Un aigle vole au-dessus de sa destinée, prêt à frapper. Son nom ? Allez. Vous l'avez deviné tout de même. Napoléon Bonaparte.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure âge de deux destins qui n'en font qu'un. Celui du couple Lefèvre et plus particulièrement de Catherine, surnommée Madame Sans Gêne. Quelle histoire que cette idylle, née d'un véritable coup de foudre entre deux Alsaciens brassés au cœur de Paris. Quelle histoire que celle de cet homme, François, propulsé au rang de général de division par la seule force de son courage et de son honneur. Mais sans Catherine, il ne serait rien. Elle a beau être rustre, parler mal le français et être dépourvue de bonnes manières, elle est particulièrement avisée. Ses conseils, souvent rudes et sévères, sont toujours sensés. D'ailleurs, son mari ne s'y trompe pas. Il les écoute attentivement. L'arrivée au pouvoir de Bonaparte risque bien de le propulser dans une autre dimension. Cette évolution aurait été tout bonnement inimaginable dans la société d'Ancien Régime de ses débuts. Catherine, elle, l'a compris. La suite appartient à l'histoire. Nous sommes le 18 mai 1804. Napoléon Bonaparte, premier consul à vie de la République française, vient de mettre en place un senatus consulte qui le proclame empereur des Français. Si le couronnement n'est prévu que pour le 2 décembre à venir, au cœur de Notre-Dame de Paris, il décide tout de même de proclamer 18 généraux au rang de maréchaux du régime. Ces hommes deviennent, par la grâce du futur souverain, les têtes d'affiche d'une toute nouvelle aristocratie basée sur le mérite. Grâce à leur action, ou leur influence, c'est selon, durant la période révolutionnaire, ils formeront le ciment de l'Empire. Et vous ne devinerez jamais, parmi eux, au milieu de Ney et autres Murat se trouve François. Oui, oui. Celui qui était petit caporal 25 ans plus tôt se fera appeler Monseigneur, touchera une rente annuelle qu'il n'aurait pu imaginer gagner sur toute une vie et, comble de tout, achètera un château. Imaginez maintenant Catherine, rustre dame du peuple, se mêler aux Caroline Bonaparte, femme de Joachim Murat ou Désiré Clary, l'épouse de Bernadotte. Il ne s'agit plus d'un monde d'écart, mais d'une galaxie. Ces femmes n'ont rien en commun et vont pourtant composer la cour. Elle a beau ne pas avoir froid aux yeux, Catherine fait part à François de ses doutes et de ses angoisses. Mais comme toujours, ils parviennent à se rassurer mutuellement et se jettent à l'eau. Il faut dire qu'ils ont été habitués à la vie mondaine depuis déjà 4 ans. François a joué un rôle, pas primordial, mais néanmoins important, dans le coup d'État qui a conduit Napoléon Bonaparte au pouvoir. Proche du futur empereur qui le trouve courageux, François sera nommé sénateur dès 1800. Sa sale blessure au bras guérit mal, il devient bourru. Le consul augmente sa pension de retraite, elle passe de 6 000 à 20 000 francs par an. Dès 1802, le couple achète un château qui deviendra leur demeure près de Paris. Catherine est ébahie par une telle évolution. Elle ne reste pourtant pas inactive, se rapproche du premier consul à chaque fois qu'une injustice la fait sortir de ses gonds. Elle place ses amis alsaciens, dont une qui devient dame de chambre de Joséphine. Elle commence déjà à faire parler d'elle, et le futur Napoléon adore son franc-parler. Ah, il n'est pas déçu. Mais en 1804, voilà qu'on va pouvoir l'appeler Madame la Maréchale. Que d'honneur. Les époux sont au sommet de la gloire. François perçoit une rente annuelle de près de 250 000 francs, complétée par un autre revenu de près de 300 000 francs annuels lié à son rang de grand aigle de la toute nouvelle Légion d'honneur. Rendez-vous compte, un ouvrier parisien bien payé touche à peine plus de 1 000 francs par an au début du 19e siècle. Lui vit avec près de 50 000 fois cette somme. C'est tout bonnement ahurissant. Lors de la cérémonie grandiose du sacre le 2 décembre 1804, François a l'honneur de faire partie des maréchaux honoraires et donc de tenir l'un des symboles de Charlemagne aux côtés de l'empereur. Pour lui, ce sera l'épée. Un conseiller d'État l'apostrophe. « Joli costume, monseigneur !» Engoncé dans un habit dont il n'a pas l'habitude, le tout nouveau dignitaire se retourne et lance à l'homme d'État « Eh bien, j'espère bien qu'il est beau, il n'a été fini qu'hier, et pourtant, il y a 35 ans que je n'ai cessé d'y travailler. » Toute une époque. Catherine, bien entendu, ne mesure pas l'étendue d'une telle richesse. Elle y prend goût cependant avec beaucoup de plaisir. Leur 14e enfant va naître à la fin de l'année 1804. Catherine a alors 51 ans. Le couple fait un retour triomphal au cœur de leur terre natale, l'Alsace. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce sont de véritables super-héros, des modèles de réussite, de véritables rockstars qui sont accueillis partout avec des fleurs, des cadeaux en tout genre, des coups de canon, des régiments au garde-à-vous. C'est une effervescence des plus folles. Alors, retour à Paris, Catherine raconte avec ses mots très crus ses impressions sur ce voyage. Les femmes de la cour éclatent de rire, se moquent d'elle. Aussitôt, sa réaction fuse dans les couloirs de Saint-Cloud. Rouge de colère, elle se tourne vers l'impératrice et sans aucune espèce de cérémonial, hurle à son visage. « Madame, je vous prie de faire taire toutes vos péronnelles !» Oui, il s'agit bien d'une insulte peu recommandable. Napoléon, de son côté, vainqueur d'Austerlitz le jour du premier anniversaire de son sacre, est acculé par les puissances européennes. La guerre contre la Prusse se prépare et François en sera l'un des héros. Les campagnes militaires qui se suivent en 1806 et 1807 sont pour Napoléon et sa grande armée des succès retentissants. Le maréchal Lefebvre commande la garde impériale, l'élite de l'élite, lors de la bataille de Léna qui écrase les Prussiens. Il est le premier à entrer à Berlin avec ses hommes. C'est un privilège des plus importants. L'année suivante, la boucherie à Eylau l'ébranle de manière considérable. C'est la première du genre et les esprits en ressortent malmenés. 45 000 morts, blessés, disparus. C'est tout bonnement un massacre. Peu après, il est lancé par Napoléon après la prise de la ville de Danzig. Cette ville immense est un vrai défi, d'autant qu'il n'a aucune expérience dans cette guerre beaucoup plus défensive. Ses compétences s'arrêtent là. La ville est prise, mais son rôle est fortement décrié par ses subordonnés. Peu importe. Les assiégés capitulent le 8 mai 1807. Victoire du maréchal, donc. Napoléon, depuis quelque temps, a une idée en tête. Il souhaite fonder une véritable noblesse d'empire, toujours basée sur le mérite. Qui d'autre que Lefebvre le mérite plus ? Cela donne lieu à une convocation dont je ne peux résister à vous partager les échanges. Reçu au sein du quartier général, François Lefebvre attend dans une antichambre. Là, il est reçu par l'ordonnance en poste. « Monsieur le Duc, l'empereur vous engage à déjeuner avec lui et vous prie d'attendre un quart d'heure. » D'instinct, ne comprenant pas la remarque, il se retourne. Personne d'autre. Finalement, l'empereur arrive. Il s'exclame. « Monsieur le Duc, asseyez-vous près de moi, je vous en prie. Monsieur le Duc a-t-il fait bonne route? Monsieur le Duc, prendra-t-il un peu de vin ?» Et François de répondre. « Mais, sire, je ne suis pas duc. Monsieur le maréchal, je vous dois quelques explications. J'ai décidé de faire de vous le premier duc de mon empire. Vous avez conquis avec talent la place de Danzig. Vous serez désormais duc de Danzig. Aimez-vous le chocolat, monsieur le duc ?» François, abasourdi, répond par l'affirmative. Napoléon le congédie en disant « Je vais vous en donner une livre de la ville de Danzig, car puisque vous l'avez conquise, il est juste qu'elle vous rapporte quelque chose. » En sortant de là, complètement sous le choc, François s'empresse d'écrire à sa femme. C'est seulement ensuite qu'il se rappelle la présence de cette boîte contenant du chocolat. Distraitement, il l'ouvre. À l'intérieur, point de douceur, mais 300 billets de 1000 francs. Une fortune ajoutée à une nouvelle rente annuelle pour le titre. Alors qu'il se croyait déjà arrivé au sommet, Napoléon ne fait que le conduire plus loin. Apprenant la nouvelle, Catherine est bien entendu très fière de son mari. Elle en parle à la cour et devient sujette aux moqueries, comme d'habitude. Mais à une femme de maréchal réputée pour sa fidélité à deux vitesses, après une remarque attaquant ses manières de duchesse qualifiée d'oubliée, Catherine répond. Ah oui. Oui, bien souvent j'oublie que je suis une duchesse, mais je n'oublie jamais que je suis la femme de Lefèvre. Et paf, cette liberté de ton, conjuguée à l'affection que lui porte le couple impérial, lui attire les foudres des autres femmes de la cour. Rapidement, elle devient une ennemie de ses alter ego. À l'aube de l'année 1809, l'odeur de la poudre se fait aussi sentir au cœur de la cour. Catherine a, comme à son habitude, le couteau entre les dents.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons l'heure H de Madame Sans-Gêne et de son mari, le maréchal Lefèvre. Ce couple, issu des classes les plus populaires de la société, connaît un destin hors du commun qui les conduit jusqu'au plus haut sommet de l'État. Sénateur, maréchal d'Empire, duc et duchesse, rien n'est trop beau pour eux. Mais vous le savez bien, le soleil finit toujours par être caché derrière d'épais nuages. Alors que l'année 1809 marque l'apogée d'un régime de plus en plus autoritaire, les années qui suivent ne sont qu'un enchaînement de catastrophes. Sur le front en Russie, Lefèvre est témoin de la mort de son fils, lui aussi général, épuisé par les périls de l'hiver russe. C'était le seul de leurs 14 enfants à avoir atteint l'âge adulte. On ne peut pas être chanceux dans tous les domaines. Dévasté, tassé par le chagrin et les regrets, le couple s'efface petit à petit des réceptions et des bals. C'est dans ce climat délétère que se profile l'année 1814, celle de toutes les chutes. Nous sommes le 6 avril, il est 10 heures. Nous sommes au Sénat, l'une des institutions garantes de la survie de la France. Depuis 4 jours, le destin du pays est joué. Napoléon doit partir. Aujourd'hui n'en est que la confirmation officielle. François, perclus de rhumatisme et de douleur qu'il doit au combat qui viennent de s'achever sur le sol français, a la main tremblante, honteuse aussi. Il vient de signer la déchéance de cet homme qui lui a tout donné. Dans son habit de sénateur, presque ridicule de grandiloquence, à l'énoncé de l'article 2, il se revoit 4 décennies en arrière, saluant le roi Louis XVI, à qui le peuple a fait couper la tête un matin froid et brumeux de janvier. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis Stanislas Xavier de France, frère du dernier roi. C'est donc fait. Louis XVIII va arriver sur le trône. La parenthèse enchantée d'une époque où, il y a quelques semaines encore, un cheval était tué sous lui au combat est terminée. Alors qu'il quitte le Sénat ce jour-là, appuyé sur une canne de circonstance, une larme coule sur sa joue. François ressent une profonde scission de son être, comme s'il n'était plus que le spectateur de sa vie. Montant en voiture, il demande au cocher de le conduire à son hôtel particulier parisien. Catherine l'y attend. Notre héroïne, elle, vit mal aussi cette période de profond bouleversement. La mort de son fils, Xavier, en Russie, a été un coup de poignard dont elle peine à se relever. Depuis 3 ans, une crise financière sans précédent s'abat sur le pays. Catherine n'a pas oublié ses origines et passe son temps à venir en aide aux plus démunis. Les semaines suivantes, le retour du roi, qui n'oublie pas le fait que le maréchal et sa femme se sont rangés du bon côté, leur assure une retraite dorée dans leur propriété à l'extérieur de Paris. Ce petit château, ils ne le quitteront plus. François est maire de sa commune depuis 1813. Catherine s'isole. Quand on lui demande pourquoi il ne se présente pas à la cour royale, sa réponse est limpide. J'y allais quand j'y étais chez nous. Maintenant que c'est chez eux, je n'y serai plus chez moi. Il faut dire que leur origine populaire est source de moquerie de la part de cette vieille aristocratie de retour au pouvoir. Quand on lui reproche son manque d'ancêtre, François s'emporte. « L'ancêtre, c'est moi !» Un autre noble, tout aussi ridicule, s'étonne du montant de sa fortune. Il rétorque. « Je vous tirerai 200 coups de fusil, et si après cela vous vivez encore, tout ce que vous admirerez est à vous. » Et bam, dans tes dents, Nobliot. Toute cette agitation, vous l'aurez compris, ne les rapproche pas de Paris. Ils restent bien à l'écart, éreintés par le chagrin provoqué par la perte conjointe de leurs 14 enfants. À quoi bon vivre de nouveau? Ils sont seuls, les premiers et les derniers d'une lignée qui va s'éteindre aussi vite qu'elle est née, en 1820. Au cœur d'un épisode de profonde mélancolie, François meurt à Paris. Catherine quitte alors le château et s'installe dans son hôtel particulier parisien. Elle déborde de richesses et décide d'en partager une grande partie avec les plus démunis. Encore et toujours, ce besoin d'aider et de rendre ce qu'elle a reçu. On la surprend à pleurer à l'annonce de la mort de Napoléon, décédé en 1821 sur son caillou de l'Atlantique. Elle sait tout ce qu'elle lui doit. Elle va survivre 15 ans à son mari pour s'éteindre paisiblement dans son sommeil en 1835. Elle a alors 82 ans. Les Lefèvre sont tous les deux enterrés au Père-Lachaise, juste à côté de la tombe d'un des leurs, le maréchal Masséna. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une description de Madame Sangène, faite par un des personnages les plus importants de l'État sous le Premier Empire, Cambacérès. Nous sommes alors en 1809, l'époque d'une réalité bénie des dieux. Je sais bien que la maréchale n'est pas une duchesse parfaitement en harmonie avec sa dignité. Mais elle est une bien bonne femme. La duchesse avait toujours quelques bonnes gaietés bien entières, bien drues surtout, et jamais elle ne manquait de riposte. À une noble qui vient complimenter sa coiffure lors d'une de ses réceptions, lui demandant l'adresse de son coiffeur, elle répond par exemple « C'est moi la coiffeuse ». Catherine Lefèvre, Madame Sangène, c'est avant tout le symbole de ce que l'aigle napoléonien a voulu mettre en place, l'ascension par le mérite, après tout. À quoi servent les bonnes manières quand on a bon cœur, n'est-ce pas, messieurs, dames? Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.